9h, 10h, c'est arrivé demain.
Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Bonjour, bon dimanche. Le premier tour de la présidentielle a lieu dimanche prochain. Alors, qu'est-ce qu'il se passe dans la tête des électeurs, des militants, des candidats? C'est ce que l'on va voir tout de suite avec Laurent Pernot qui publie La fièvre des urnes, 2500 ans de passions électorales. Je recevrai ensuite Thibault Le Texier, l'auteur de la première histoire critique du marketing. Elle est intitulée La main visible des marchés. On va voir avec lui comment on essaye de nous convaincre depuis un siècle d'acheter tel produit plutôt que tel autre. Et l'on terminera l'émission avec le violoniste Renaud Capuçon. Le festival de Pâques d'Aix-en-Provence qu'il dirige commence vendredi prochain et va durer 2 semaines.
Europe 1.
Bonjour Laurent Pernot.
Bonjour.
Vous êtes professeur agrégé de langue et de littérature grecque à l'Université de Strasbourg. Vous êtes membre de l'Institut et vous venez de publier La fièvre des urnes, 2500 ans de passions électorales. Vous nous rappelez que depuis toujours, nous votons pour des raisons souvent irrationnelles, des pulsions, des émotions, des sentiments, et que c'est très bien comme ça. Il ne faut pas en avoir honte.
Absolument. Ça ne va pas de soi parce qu'on affiche en général les motivations rationnelles, on donne des programmes, on compare des mesures, on donne des chiffres, et j'ai essayé de montrer ce qu'il y a derrière ou en dessous de cette apparence revendiquée, c'est-à-dire des passions à la fois de la part des électrices et des électeurs et des candidates et des candidats. C'est le moteur de notre vie politique.
Dans son impureté même, écrivez-vous, le processus électoral est authentique et fort parce qu'il est façonné par l'implication personnelle et collective.
Oui, parce que les passions sont ambivalentes. Il y a des passions qui sont bonnes, comme la passion de la vérité. Il y a des passions qui sont mauvaises, comme la rancœur. Mais même dans les bonnes, il se cache quelque chose parfois de mauvais, comme lorsque le souci de la justice transforme quelqu'un en ayatollah intolérant. Et puis, inversement, dans les mauvaises, il peut y avoir quelque chose de bon, comme lorsque l'esprit de vengeance pousse à défendre une cause, comme c'est toute l'affaire de MeToo, finalement. C'est un fleuve qui charrie de tout et qui nous donne l'énergie, à nous de voter et à eux, je ne suis pas candidat, donc je dis à eux, de se présenter à nos suffrages.
Mais Laurent Pernot, si on votait après avoir minutieusement comparé les programmes d'une façon rationnelle, comme on nous dit qu'il faut le faire, est-ce que ce serait moins fort et moins authentique pour autant, d'après vous ?
C'est surtout hypothétique. L'homme est tel que, même s'il essaye de faire abstraction de ses pulsions, elles sont là. Et même, je dirais, même en ce moment, où l'on dit parfois que les Français ne se passionnent pas pour la politique, je crois que les passions sont beaucoup plus présentes qu'on ne le perçoit. Elles couvent. Et il vaut donc mieux peut-être en parler maintenant plutôt que d'attendre qu'elles se déchaînent par la suite.
Mais alors de quoi sont nourries nos passions électorales ? C'est un mélange de quoi ?
Alors on peut peut-être distinguer le côté des votants et le côté des candidats. Chez les électeurs, il y a l'orgueil, la fierté, une espèce d'ivresse dominatrice parce qu'au moment du vote, c'est lui qui est le maître. Le maître de son futur maître. Il peut y avoir aussi la colère s'il a l'impression d'être maltraité. On voit dans la pièce de Shakespeare intitulée « Coriolan » comment un général, homme d'État, qui a tout pour être élu, finit par être repoussé par les électeurs parce qu'il les a traités avec trop de hauteur. Il a montré combien il les méprisait. Donc il faut toujours se méfier du syndrome de Coriolan.
Mais il y a aussi l'ambition, le désir, ça c'est plutôt chez les candidats, mais il y a aussi de l'ambition chez l'électeur.
L'ambition, je la vois plutôt chez le candidat ambiré en latin, hein, l'étymologie du mot ambition. Ça veut dire aller ici et là, faire des démarches, aller de tous les côtés pour solliciter les uns et les autres afin de les mettre de son côté.
Vous ne pensez pas qu'il peut y avoir de l'ambition pour son pays, hein, pour sa ville, quand il s'agit d'une élection municipale, parce que votre livre traite de toutes les élections, oui. Même de celle du pape d'ailleurs. Au fond, on peut dire qu'il y a de l'ambition, il y a du désir chez les électeurs aussi.
Oui.
Ils peuvent avoir une haute vision de l'avenir de leur cité ou de leur pays.
Oui, bien sûr, vous avez parfaitement raison, de l'ambition qui peut aller jusqu'au nationalisme, à une vanité même d'appartenance à un groupe.
Les candidats, eux, peuvent les flatter, ces passions, sans pour autant les partager.
Oui, le meilleur candidat, c'est celui qui sait jouer sur les ressorts passionnels froidement. Pour ça, on peut remonter à la rhétorique d'Aristote. Aristote a essayé de faire la théorie du discours politique, et ce qu'il a montré, c'est qu'il ne s'agit pas seulement de parler à l'intelligence de ceux qui écoutent, mais que le bonhomme politique doit aussi jouer sur les passions, les caractères, tout l'aspect affectif qui est celui de son auditoire.
Quand on parle des passions en politique aujourd'hui, on a tendance à dire qu'elles sont dangereuses, mais ça dépend aussi des circonstances. Vous disiez le nationalisme, par exemple, il peut être mal vu en temps de paix, mais en temps de guerre, on trouve très bien aujourd'hui que les Ukrainiens soient nationalistes, par exemple.
Oui, c'est l'ambivalence dont nous parlions tout à l'heure. Et, on ne peut pas en faire abstraction, donc il faut accepter cette force et peut-être plutôt essayer de la réguler, et j'ajouterais de la sublimer, parce que il y a tout cet investissement affectif concentré en une période critique qui est celle du scrutin, mais une fois que le scrutin est passé, quand le système politique fonctionne bien, on en reste là, et donc on a en quelque sorte déchargé cette fureur, et le résultat s'impose à tous.
J'ai l'impression que c'est depuis les années 80 que l'on estime que les passions politiques sont dangereuses, qu'on préfère la modération. Il y avait eu des poussées d'extrême-gauche juste avant, qui avaient pu d'ailleurs dégénérer dans le terrorisme, ou en tout cas dans l'intolérance, qui font qu'aujourd'hui on continue de penser que la modération, c'est ce qu'il y a de mieux.
Oui, on a un modèle de fonctionnement apaisé, si l'on peut dire, du système, et on espère que les passions ne seront pas trop fortes. Et c'est un peu ce que disait Raymond Aron quand il disait que le rêve des Européens, c'était maintenant de se tenir au balcon de l'histoire et de contempler les événements de manière apaisée. Puis tout d'un coup, l'histoire s'invite, comme on le voit en ce moment. Et là, il faut bien réagir.
Et puis, quand il y a des élections, de toute façon, les passions s'invitent, qu'on le veuille ou non. On fait une pause, Laurent Pernaut.
9h, 10h, c'est arrivé demain.
Avec Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Nous sommes avec Laurent Pernaut qui publie La fièvre des urnes, un livre tout à fait d'actualité. Nous sommes à une semaine de l'élection présidentielle. C'est ce qui fait aussi qu'on ne dira jamais le nom d'un candidat, puisque nous sommes astreints à une stricte égalité entre les candidats. Si on en cite un, il faut citer tous les autres. On va donc s'en abstenir. Continuer dans cette émission d'être le plus neutre possible. On parle donc de passions électorales, de passions politiques. C'est très différent, une passion individuelle et une passion partagée, parce que pendant une campagne électorale, les passions sont partagées.
Oui, il faut les partager. Et c'est le propre de la passion en politique par rapport aux autres domaines dans lesquels elle peut s'exercer. Par exemple, une des passions les plus fortes pour l'homme, c'est l'amour. Et le candidat, il est mu par une ambition qui ressemble beaucoup à l'amour, parce qu'il convoite le poste, la place, le siège. Mais le problème, c'est que là, il est forcé de faire partager cet amour pour entraîner d'autres avec lui qui vont voter et qui vont le porter là où il le veut. Et donc cet aspect communautaire, collectif, est nécessaire dans la politique. Il faut savoir rallier les autres.
Laurent Pernaut, il y a forcément de l'enthousiasme dans une campagne électorale. Est-ce que cet enthousiasme est tout à fait sincère ?
Pas nécessairement. La sincérité, elle vient en plus. Il faut surtout animer le groupe. Je crois que c'est ça le plus important. Et peu importe les motifs des uns et des autres, c'est un mouvement collectif qui va entraîner toute la société.
Mais vous montrez bien à quel point les passions sont déterminantes au moment du scrutin et pendant toute la campagne qui le précède. On peut en jouer, on peut les simuler, ces passions, on peut faire semblant. Aussi bien du côté des candidats d'ailleurs que du côté des électeurs, des militants.
Oui,
on peut être emporté.
Oui, oui, ça fait partie de ce jeu, hein, de jouer à au désir du poste, et c'est comme ça que ça peut marcher. Oui, tout à fait d'accord. Et encore, nous n'avons parlé jusqu'ici que de l'élection, mais ceci se démultiplie au moment de la réélection. Parce que être élu, c'est désirable, mais être réélu, c'est encore beaucoup plus important, parce que si on est battu, alors c'est un désaveu, et si en revanche on est reconduit, alors c'est une approbation massive, c'est un blanc-seing. Et pour l'électeur vis-à-vis du candidat, pour l'électeur, voter quand le candidat se représente, c'est pas seulement voter sur son programme, c'est aussi donner son avis sur ce qu'il a fait. Donc c'est un pouvoir supplémentaire, si bien que la réélection concentre encore plus le passionnel.
Il y a un mot que vous employez dans votre livre, qu'on utilise rarement quand on parle de politique, et encore moins quand on parle de campagne électorale, c'est l'amitié. Vous dites, nul ne fait campagne sans amis, on ne fait pas campagne tout seul. On a des amis, on se fait des amis.
Oui, il y a un texte de Cicéron, enfin du frère cadet du grand Cicéron, qui est magnifique sur ce sujet, qui est une espèce de vade-mecum pour la campagne électorale que s'apprêtait à faire son aîné. Et il insiste en particulier sur cette dimension de l'amitié. Il faut dire aussi qu'à Rome, il n'y avait pas de parti politique organisé comme à notre époque, donc les liens personnels jouaient encore un rôle plus grand. Mais il analyse très finement ce qu'il y a dans l'amitié qui est à la fois une alliance d'intérêts. On a eu des exemples, une formule célèbre qui disait des amis de 30 ans, et nous savons que des amis de 30 ans en politique, ça peut couvrir des rapports très, très complexes, voire conflictuels, quand la crise éclate. Mais il y a tout de même aussi un compagnonnage partagé dans l'amitié politique. Il y a des combats qui ont été menés ensemble. C'est très important d'avoir des amis.
Mais qui dit ami dit aussi ennemi, et Dieu sait si on en a en politique. Et c'est pas de pitié en plus.
Oui. Oui, et là encore, le texte de Cicéron est beau parce qu'il dit « tu as des ennemis, il y a ceux à qui tu as fait du tort, il y a ceux qui sont tes ennemis parce qu'ils sont les amis de tes adversaires, et puis il y a ceux qui sont tes ennemis comme ça, sans raison, sine causa, parce qu'ils ne t'aiment pas. » Et là, on est vraiment dans le personnel et l'affectif.
C'est ce que dit son frère à Cicéron, mais on sait aussi qu'il y a des candidats qu'on n'aime pas parce qu'on n'aime pas leurs idées, parce qu'on n'aime pas ce qu'ils représentent.
Oui. Oui, alors là, on est dans un autre ordre de jugement qui peut aussi être rationnel. Et là, on sort peut-être du passionnel si c'est par une analyse que l'on n'aime pas les idées des uns et des autres. Je ne veux absolument pas nier la part des éléments rationnels qui existent, heureusement, qui sont très importants.
Mais qui peuvent être aussi provoqués par des pulsions. On peut ne pas aimer tel ou tel candidat pour son physique, pour ses vêtements, pour sa façon de parler, de s'exprimer.
Oui.
Tout est au fond là dans une campagne, dirait-on.
Oui, oui, c'est l'impondérable pour celui qui se présente.
Mais alors, si on vous suit derrière la face raisonnable du candidat, du militant, de l'électeur, il y a des passions. Est-ce qu'elles sont conscientes ou inconscientes? Est-ce qu'elles sont pensées ou impensées?
Je considère que la passion, c'est l'impensé de la politique, parce que jamais on ne le met sur la table. Un candidat ne dira jamais « je suis ambitieux », il dit « j'ai une ambition pour le pays ». Un électeur ne dit jamais « je suis de parti pris », il dit « j'ai des convictions ». Donc on ne les affiche pas, et pourtant elles travaillent par en dessous. Et donc en ce sens, elles sont cachées. Ensuite, nous devons tout de même essayer de nous analyser si nous pouvons, pour mieux comprendre quand nous mettrons un bulletin dans l'urne dimanche prochain, comme il faut le faire, pour mieux comprendre quels sont nos vrais mobiles.
Mais très souvent, alors ça a peut-être changé depuis quelques temps, mais pendant longtemps, j'ai l'impression qu'on votait, on appartenait à une famille de politique, on était de droite ou de gauche, et on votait éternellement à droite ou à gauche, comme l'avaient fait nos parents avant, ou notre milieu, ou parce que nous avions vécu tel ou tel moment historique, mai 68 par exemple, qui nous avait formés, je ne parle pas pour moi, j'étais trop jeune, mais pour d'autres. Au fond, tout ça est de l'ordre de l'irrationnel aussi.
Oui, c'est les appartenances.
On est conditionné.
Les appartenances qui sont là quand on entre dans l'isoloir. L'isoloir, on croit souvent que ça vient du mot « seul ». Mais en réalité, non. L'étymologie d'isoloir, c'est une soula, c'est une île. Et donc, on entre dans une île quand on tire le rideau de l'isoloir, et on entre dans cette île avec tout le poids de ce qu'on est, de ses appartenances de classe, de race, de sexe, d'église et autres. On n'est pas tout seul dans l'isoloir.
Et en dépit de toutes ces passions, de toute cette irrationalité, ça ne remet pas en cause le bien fondé du système, dites-vous, hein ? Au contraire.
Oui, mon message est tout à fait optimiste, dirais-je. En regardant des textes anciens sur les élections, je me suis dit chaque fois que notre présent, si décrié, n'est pas mauvais en réalité. Nous avons des élections qui fonctionnent, des résultats qui sont respectés et sincères. Ça n'a rarement été comme cela, soit ici, soit dans d'autres époques.
La fièvre des urnes, 2500 ans de passions électorales, c'est signé Laurent Pernaud et c'est paru aux éditions de l'Observatoire. Merci Laurent.
Merci.
On fait une pause, on se retrouve juste après. On va s'intéresser au marketing. Alors pas au marketing politique, au marketing, ce qui nous fait acheter tel produit plutôt que tel autre. Mais enfin, il y a sûrement des parentés. Hein.
9h, 10h, c'est arrivé demain.
Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Thibault Le Texier, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chercheur associé au CESSP, le Centre européen de sociologie et de sciences politiques. Vous publiez à la découverte La main visible des marchés, une histoire critique du marketing. Le marketing moderne est né dans les années 20 aux États-Unis. Il y a un siècle, c'est l'art de la vente et tout ce qui peut l'influencer, y compris la publicité.
Oui, la publicité fait souvent l'objet de toute l'attention en fait, quand on parle de marketing, alors que c'est la farce la plus bruyante, la plus visible. Mais c'est uniquement un aspect du marketing qui est en fait beaucoup plus vaste, qui concerne tout ce qui sépare la production de la consommation. Donc ça fait quand même un très grand continent.
Le marketing, au fond, naît avec l'augmentation du niveau de vie, de même que la publicité augmente au fur et à mesure que la production augmente.
Oui, tout à fait. On a souvent l'impression que c'est la publicité qui cause en fait la consommation, alors que c'est plutôt l'inverse. C'est plutôt la consommation qui permet la publicité. En fait, les dépenses de publicité sont proportionnelles au PNB. Donc, en fait, plus on consomme et plus on finance la publicité.
Au fond, le marketing a-t-il évolué en un siècle ? Il s'est affiné, mais en vous lisant, on a l'impression qu'il n'a pas tellement changé.
Non, il y a un socle de principes qui a été posé dans les années 1910-1920, comme vous le disiez, et qui a assez peu bougé depuis. Donc évidemment, il y a des outils marketing qui sont apparus, comme les réseaux sociaux aujourd'hui, ou des techniques marketing qui se sont diffusées au-delà des entreprises. Mais le principe même du marketing, la définition, le cœur du marketing a assez peu bougé en fait.
Même avec Internet, où nous dit-on le consommateur a désormais le pouvoir.
Non. En fait, Internet a accentué des tendances très fortes qui existaient déjà dans le marketing. Donc typiquement, un des principes clés du marketing, c'est que le consommateur est roi et qu'il faut essayer de connaître la demande pour essayer de l'influencer. Et donc, l'Internet, en ce sens-là, et les réseaux sociaux ont permis un essor extraordinaire de la recherche en marketing. Maintenant, on a des connaissances de plus en plus fines des consommateurs, mais ce n'est pas quelque chose qui est apparu avec les réseaux sociaux.
Mais est-ce que le consommateur est vraiment roi ?
Alors oui et non, c'est un petit peu ambivalent en fait, dans le marketing. Il y a cette idée que le consommateur est roi et qu'on n'a pas vraiment de moyens de pression sur lui. S'il ne veut pas consommer, on ne peut pas l'empêcher, on ne peut pas le forcer de consommer. Il n'y a pas de moyen de contrainte sur le consommateur. Et en même temps, il n'est pas complètement libre. Il peut consommer que ce qui existe, il est influençable, il est souvent éduqué aussi par les consommateurs. Donc c'est un consommateur qui est roi, mais c'est un roi assez faible finalement.
Alors est-ce que vous-même, en tant que consommateur, vous avez changé depuis que vous avez étudié de fond en comble le marketing ? Parce que c'est un gros livre, hein.
Oui. Alors moi, je n'ai jamais été un consommateur très sérieux, très compulsif. Je n'ai pas de téléphone portable, je n'ai pas de voiture, je voyage assez peu. Donc voilà, je ne suis pas très représentatif du consommateur lambda. Et en fait, j'ai plutôt été rassuré, on va dire, par le marketing, parce que je partais comme tout le monde avec l'idée qu'aujourd'hui, tout est marchandisé, que le marketing est partout. Et en fait, je suis sorti de mon enquête avec l'idée que le marketing est partout, mais il n'est pas dominant partout. En fait, il embrasse beaucoup, mais il étreint mal.
Vous voulez dire que le consommateur n'est pas si facilement manipulable qu'on pourrait le redouter ?
Oui. Et puis, il y a encore des barrières morales, éthiques, assez fortes, en fait, à la marchandisation. On voit ça dans les cas extrêmes de la GPA, de la prostitution, de la vente d'organes, où on voit que voilà, on peut pas tout vendre et tout acheter, qu'il y a quand même encore des résistances assez fortes de la part de la société. Mais on voit ça aussi dans le marketing de soi, le marketing de l'église, le marketing politique, où le marketing est utilisé, mais pas complètement, toujours avec des bornes assez fortes.
Mais de même, dans le marketing qui concerne les produits, on ne peut pas faire tout et n'importe quoi.
Oui, tout à fait. Le principe du marketing, justement, c'est essayer d'épouser des tendances, de bien connaître les consommateurs, de vraiment se couler dans un courant, de prêcher des convertis, plutôt que d'essayer de convertir à toute force les individus. C'est vraiment en essayant d'épouser les désirs qu'on peut le mieux vendre les produits, en fait.
Mais déjà, il y a un siècle, vous citez David Ogilvy, qui est un grand publicitaire et qui, à l'époque, déjà s'indignait. Il disait le consommateur n'est pas un abruti, c'est votre femme.
Oui, tout à fait. Il y a toujours eu un peu une guéguerre comme ça chez les publicitaires, entre d'un côté ceux qui disaient qu'on pouvait vendre tout et n'importe quoi, que le consommateur était irrationnel, stupide, qui ne s'informait pas sur les produits, et d'autres publicitaires qui disaient bah, en fait non, les consommateurs souvent sont pleins de bon sens, ils consomment par habitude des produits qu'ils connaissent ou qu'ils finissent par connaître assez bien, et donc on ne peut pas vendre tout à n'importe qui en fait. Il faut diffuser le bon message à la bonne personne, de la bonne manière et au bon moment, ce qui est quand même beaucoup de contraintes.
Et quand il disait « c'est votre femme », il disait la vérité. Hein. Déjà à l'époque, à peu près 90% des produits aux États-Unis étaient achetés par les femmes.
Oui,
c'est
oui,
elles
oui.
qui choisissaient, y oui. compris la voiture.
Oui, alors la voiture, elles avaient une influence sur la voiture, mais souvent quand même le mari, ça restait un produit qui était acheté surtout par des hommes. Mais c'est vrai qu'on estime depuis un siècle que les femmes représentent environ 80% des consommatrices. Donc le marketing a la particularité d'être un art de gouverner les femmes qui a été largement conçu par des hommes.
On fait une pause, Thibault Le Texier, on se retrouve juste après.
9h, 10h, c'est arrivé demain.
Avec Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Nous sommes avec Thibault Le Texier, l'auteur de La main visible des marchés. La main visible des marchés, c'est le marketing. Il s'agit en effet de la première histoire critique du marketing. Thibault Le Texier, au fond, c'est le vote du consommateur qui détermine ce qui sera produit. C'est ça que vous expliquez dans votre livre. Au fond, il n'y a rien de plus démocratique que le libre marché, disent la plupart des marketeurs.
Oui, c'est un argument qui est avancé pour défendre la consommation, le marketing et la société de marché en général, que voilà, en fait, c'est un dollar ou un euro une voix, et donc en fait, les produits qui marchent, ce sont des produits qui sont élus, de la même façon que les gens qui sont riches, ce sont des gens qui sont élus par les autres, c'est-à-dire que ce sont des gens qui ont recueilli le plus de votes, le plus d'argent, et donc même s'il y a des écarts de richesse, en fait, c'est parfaitement démocratique. Alors qu'en fait, on peut contester cette idée en montrant que c'est une société dans laquelle les décisions sont très mal prises, en fait, la démocratie des consommateurs, puisqu'il n'y a jamais de mécanisme de délibération. On ne s'est jamais assis autour d'une table, par exemple, pour décider collectivement de la place que la voiture devait avoir dans nos sociétés. La place qu'a aujourd'hui la voiture, elle a été le fait d'une accumulation de décisions individuelles non coordonnées. Donc en ce sens-là, c'est une démocratie pour moi qui est quand même assez imparfaite.
Mais ce que Schumpeter vous aurait répondu, c'est qu'à l'issue de la prochaine élection présidentielle, par exemple, qui aura lieu la semaine prochaine, seuls les électeurs de celui ou de celle qui sera élu seront satisfaits. Alors que sur des marchés diversifiés, je parle là de la consommation, tout le monde finit par trouver chaussure à son pied. Tout le monde peut finir par être content.
Oui, enfin, ce qu'oublie Schumpeter, c'est que non, il n'y a pas une infinité de produits et on ne peut acheter que ce qui est en vente, que ce qui va être rentable ou que ce que certaines entreprises savent fabriquer à profit. Donc on ne peut pas, on trouve chaussure à son pied, enfin, on doit souvent quand même un petit peu forcer son pied dans des chaussures existantes.
Mais si un publicitaire vous disait au fond Coca-Cola a plus d'électeurs que votre futur président ou présidente de la République, qu'est-ce que vous lui répondriez ?
Les gens n'attendent pas la même chose d'une canette de Coca-Cola et d'un président de la République.
Tout simplement.
Oui, c'est-à-dire que quand on achète une canette de Coca, c'est un geste qui a quand même beaucoup moins de force et d'importance que quand on met un bulletin dans une urne.
Oui, mais à force d'en acheter une chaque jour, c'est quand même une façon de voter, d'une certaine manière.
Oui, mais alors c'est la même chose que ce que je disais pour la démocratie des consommateurs. C'est-à-dire qu'on ne vote pas pour un programme politique, on vote uniquement pour un produit existant. Donc pour moi, c'est quand même une façon assez limitée d'exprimer son opinion.
Vous dites que même les contre-cultures sont récupérées par le marketing et la consommation. C'est même le marketing, au fond, qui les rend possibles à une époque, je parle là des années 60, par exemple, où Internet n'existait pas.
Oui, très tôt, en fait, le marketing, les spécialistes du marketing ont vu que les adolescents et les hippies étaient un segment de consommateurs, en fait, assez intéressant, qui consommaient notamment beaucoup de disques, de tickets de cinéma. Et donc.
Et de t-shirts.
Alors, pas encore des t-shirts, mais.
C'est plus tard les t-shirts.
Et donc, en fait, on se sont mis à faire des publicités en direction de ce segment. Et donc, on a rendu visible la contre-culture en la récupérant. Et donc, en quelque sorte, ils ont. Sponsoriser la contre-culture, elles lui ont permis d'avoir l'écho qu'elle a eu.
Le marketing cible tous les segments de la consommation, les adolescents, vous l'avez dit, les femmes, on l'a dit, puisque ce sont elles qui achètent dès les années 30 entre 80 et 90% des produits, sont elles qui les choisissent, les enfants ensuite, et puis en fonction des classes sociales, les minorités ethniques. Vous donnez cette information d'ailleurs que dans les années 40-50, Pepsi-Cola avait déjà un département des ventes entièrement composé d'Afro-Américains. Et puis, il y a les religions qui vont rentrer en ligne de compte aussi, qui sont aujourd'hui l'objet d'un marketing particulièrement attentif. Hein. Au fond, le marketing a inventé la culture woke.
Alors, je ne sais pas si on peut dire ça. Ce qu'on peut dire, c'est qu'on a souvent l'impression que le marketing a tendance à massifier la société, que la consommation de masse transforme la société en société de masse. Alors qu'en fait, le principe du marketing, c'est la segmentation, c'est le ciblage, c'est de découper la masse des consommateurs en une multitude de segments et d'essayer de satisfaire différemment chaque segment.
Mais quand je dis le marketing a inventé la culture woke, que je ne plaisante qu'à moitié, au fond, en caressant chacun dans le sens de son identité, le marketing a fait beaucoup.
Oui, tout à fait. Donc ça, c'est quelque chose qui ferait plaisir à Schumpeter, mais c'est que le marketing, en quelque sorte, sait faire son miel de toutes les fleurs et donc va satisfaire les woke comme les racistes, comme différents segments de consommateurs. Et donc, il n'y a pas de demande qui soit en soi mauvaise, quelque part.
À quel moment est-ce que les marketeurs ont-ils investi les lieux de vente eux-mêmes en submergeant les détaillants de présentoirs, d'affiches, de calendriers, d'enseignes? Ils ne se contentaient plus de faire de la publicité à l'extérieur des magasins, à la radio, à la télévision. Tout à coup, ils sont rentrés dans le magasin.
Oui, bah en fait, très tôt, les simples emballages, en fait, à l'origine, sont un moyen de prendre le contrôle des magasins et d'empêcher les vendeurs de décider quels produits les consommateurs vont acheter, puisqu'avant, les produits étaient vendus en vrac. Donc, c'était le vendeur, l'épicier, sur le moment qui choisissait tel et tel type de farine pour servir ses clients. Donc, avec les emballages, c'était les clients eux-mêmes qui pouvaient dire « je veux telle marque de farine » ou « je veux telle marque de sucre », par exemple. Et ensuite, très tôt, ils se sont rendus compte que les magasins pouvaient servir de médias, pouvaient servir de support publicitaire. Et donc, ils ont développé les vitrines, les publicités sur les lieux de vente, des argumentaires types qui étaient distribués aux vendeurs, des affiches. Donc, en fait, très tôt, les magasins étaient récupérés, colonisés par les marketeurs.
Et à quel moment est-ce que les consommateurs eux-mêmes sont devenus des hommes sandwich? À quel moment est-ce qu'on a arboré des marques sur nos vêtements, sur nos accessoires, sans être payés en plus?
Oui. Moi, ça fait déjà plus d'un siècle. J'ai trouvé des photos de chapeaux des années 1905-1906 sur lesquelles, qui étaient distribués pour des pique-niques ou pour des événements sportifs sur lesquels il y avait des noms de marques qui étaient apposés. Donc, très tôt, les individus ont aussi été pensés comme des médias publicitaires.
Le pouvoir d'achat reste la préoccupation numéro un des Français dans cette campagne électorale. Ce désir de confort et de consommation, est-ce que ça n'est pas une victoire du marketing?
Alors, je pense que c'est quelque chose sur lequel a cru le marketing, mais qui n'a pas inventé. En fait, je pense que c'est assez universel, ce besoin de sécurité, de confort, et que le marketing en fait fait son miel en particulier de cette fleur, mais qu'il ne l'a pas inventé.
Merci Thibaut Le Texier. La main visible des marchés, une histoire critique du marketing, ça vient de paraître à la découverte. On fait une pause, on se retrouve juste après avec Renaud Capuçon.
9h-10h, c'est arrivé demain.
Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Bonjour Renaud Capuçon.
Bonjour.
Vous n'êtes pas seulement violoniste, vous êtes également directeur artistique du Festival de Pâques d'Aix-en-Provence, qui revient à la normale après 2 ans de Covid, du 8 au 24 avril. Comment ça s'était passé l'année dernière ?
L'année dernière, c'était étrange. La première année était terrible parce qu'on avait dû annuler complètement. L'année dernière, on a annulé partiellement. On n'a pas eu de public, mais on a donné 15 concerts. Enfin, on a donné le nombre de concerts prévus. En live, mais simplement retransmis en numérique. Donc c'était, les artistes étaient là, mais pas le public.
Peut-être avec plus de public, non ?
Beaucoup plus de public.
Oui.
C'était colossal, le nombre de public, mais c'était un drôle de moment, parce qu'on était quand même seul sur scène. Il n'y avait pas de partage effectif. Donc on a très, très hâte de retrouver le public.
Effectivement. Mais est-ce que vous gardez pour autant les concerts retransmis en ligne simultanément ?
Non, pas tous, parce que je pense qu'il faut maintenant vraiment revenir aux concerts.
Une mauvaise raison de ne pas venir.
Oui, on peut le voir comme ça. Mais moi, je pense que je crois au spectacle vivant, et tant qu'on peut être vraiment là, il faut le faire.
Alors, les concerts publics auront donc lieu au Grand Théâtre, au Conservatoire, au Théâtre du Jeu de Paume, dans les églises, retransmis en ligne. Vous allez notamment jouer le concerto pour violon numéro 1 de Max Bruch, un morceau que vous aviez enregistré en 2016. Alors, c'était avec l'Orchestre de Paris à ce moment-là. On va en écouter tout de suite un extrait. Capuçon, il a été composé vers 1865, c'est l'un des grands concertos pour violon romantique allemand, mais qu'est-ce qu'il a de particulier pour le violoniste ?
D'abord, c'est un concerto qu'on joue assez jeune dans sa vie musicale, avec le concerto Mendelssohn, c'est les deux concertos, Bruch et Mendelssohn sont les deux concertos qu'on joue vraiment assez tôt. Et puis, Bruch, c'est un compositeur qui a énormément écrit pour le violon, qui est beaucoup moins connu que Brahms.
Oui, on se souvient que de cela, hein,
voilà,
pratiquement.
Alors qu'il a écrit d'autres œuvres magnifiques. Et j'ai une tendresse particulière pour ce concerto. Je le trouve romantique à souhait. Je le trouve très bien écrit. La proportion est parfaite. Il s'enchaîne complètement, comme celui de Mendelssohn, à part le final. Et donc, c'est un concerto que j'ai beaucoup de plaisir à jouer.
Quel est l'intérêt pour un grand violoniste tel que vous d'être directeur artistique d'un festival ? C'est à la fois parce qu'on peut choisir les œuvres qu'on va jouer, mais aussi parce qu'on peut choisir les invités. Politiquement, non. Ça vous donne l'importance dans le milieu ?
Rien de tout ça. Vous savez, j'ai commencé à programmer. J'avais mon premier festival à Chambéry quand j'avais 19 ans. Donc c'est une chose totalement organique pour moi, c'est simplement le besoin et l'envie de programmer des gens que j'aime et de jouer de la musique. Comme je ne peux pas tout jouer moi-même, et j'ai une telle fringale de musique que je programme d'autres, des amis et plein d'autres œuvres pour pouvoir les partager avec le public, c'est tout simplement ça.
Vous allez jouer également le Quatuor pour la fin du temps d'Olivier Messiaen. Alors c'est un Quatuor célèbre qui a été composé dans un stalag en Allemagne où Olivier Messiaen était prisonnier de guerre. On est fin 1940. Il l'a créé en janvier 41 devant 400 prisonniers avec trois musiciens, ses camarades, avec des instruments rafistolés. Ils ont été libérés 6 mois plus tard et ils l'ont enregistré dans la foulée. On va l'écouter tout de suite, un extrait. Olivier Messiaen et ses camarades de stalag jouant le Quatuor pour la fin du temps que vous allez vous-même interpréter d'ici peu. Bruno Capuçon, pourquoi ce morceau? Pourquoi ce Quatuor?
D'abord, ce Quatuor pour la fin du temps est une des œuvres majeures du XXe siècle. Et puis, à côté d'Aix-en-Provence, au Mille, il y a un camp de déportation. J'en ignorais l'existence et c'est mon ami Dominique Buzet qui dirige le festival avec moi qui m'en a parlé. Et immédiatement, j'ai dit, il faut absolument jouer ce Quatuor pour la fin du temps. Dans ce camp où énormément de gens sont passés et ont été ensuite déportés dans des camps de concentration.
Le camp des Mille, il est célèbre. Il ouvre en septembre 1939. C'est d'abord les Français qui mettent absolument les ressortissants des pays dits ennemis. On les met au camp des Mille. C'est dans une ancienne briqueterie. Puis ensuite, c'est le régime de Vichy qui va y mettre notamment des Juifs allemands, beaucoup.
Et on a été très silencieux en France sur l'existence de ces camps pendant de nombreuses années. On en parle beaucoup plus maintenant. Et l'idée de jouer cette pièce dans un endroit comme celui-ci, ça donne une dimension à l'œuvre encore plus forte.
Mais c'est de la musique religieuse aussi, hein, le Quatuor pour la fin des temps. Ce morceau, c'est l'ascension de l'homme vers son Dieu, disait Messiaen. Hein.
Oui,
Jésus, mais Jésus en tant qu'homme.
Voilà, c'est tout l'univers d'Olivier Messiaen, avec aussi le thème des oiseaux qui est présent partout, les couleurs, et puis ces louanges qui sont écrites pour, à la fois pour clarinette seule, violoncelle piano et violon piano, qui sont des extraits de cette œuvre-là, et qui sont des moments Oui, ce sont des vraies louanges à Dieu.
Vous avez voulu également que les violoncellistes français soient à l'honneur cette année. Anne Gastinel, Ophélie Gaillard, Emmanuel Bertrand, Marc Copé, Jérôme Pernoux, Xavier Philips. Pourquoi le violoncelle? Pourquoi pas le triangle?
Bonne question. Parce que c'est un instrument magnifique. Il se trouve que cette génération, moi je les ai tous connus quand j'avais 14-15 ans. Ils sont un tout petit peu plus âgés que moi, donc c'était les stars de l'époque. Ils avaient 20-25 ans. Ils avaient tous travaillé avec Tortelier. C'était
qui Tortelier?
Grand violoncelliste français, immense violoncelliste. Et je me souviens, il faisait des masterclass avec lui, ça me fascinait. Et il se trouve qu'on a 5 sonates pour violoncelle de Beethoven, il en a écrit 5. Et Bach a écrit 6 suites pour violoncelle. Et donc j'ai demandé à 6 violoncellistes français de cette génération de jouer chacun une de ces pièces. Et on aura 2 concerts, l'un autour du corpus de Bach et l'autre autour du corpus de Beethoven. Et l'idée d'avoir ces 6 violoncellistes qui vont décliner comme ça ces œuvres avec leur personnalité, je trouve ça passionnant.
Ben, je vous propose d'écouter Anne Gastinel qui a enregistré le prélude de la suite numéro 1 en sol majeur de Jean-Sébastien Bach, morceau très très célèbre fait pour les violoncellistes. On l'écoute un extrait. Renaud Capuçon, un festival comme le festival de Pâques d'Aix-en-Provence, est-ce que ça a des petits côtés festival de Cannes? Est-ce qu'on est en smoking? Est-ce qu'on est en robe longue? Est-ce qu'on monte des marches?
Non, on monte des marches, j'espère, vers les cieux. Mais non, on est chacun bien habillé comme il veut. Les musiciens sont habillés, bien sûr, en smoking ou en costume, comme il se doit, mais le public. Et je te dis que avec Dominique Buzet, on a vraiment toujours tout fait pour que le public se sente bien dans ce festival. On a beaucoup de jeunes, on a toutes les générations, et le soutien du CIC nous a aussi beaucoup aidés. Et je tire mon chapeau à tous les gens qui nous soutiennent et tout le public qui est, depuis la première année, depuis presque 10 ans maintenant, très présent. Donc j'espère qu'ils vont tous revenir et ça va être un moment... En tout cas, on a vraiment hâte de se retrouver.
Eh bien, je vous le souhaite, Renaud Capuçon. Bon festival de Pâques. Ça commence le 8 avril, ça se termine le 24 avril. C'est à Aix-en-Provence et autour.
Merci.
Europe 1.
C'est arrivé demain et terminé. Je vous souhaite un très bon dimanche sur Europe 1. Le grand rendez-vous Europe 1, CNews Les Échos commence dans un instant, animé par Sonia Mabrouk. Bonjour Sonia. Qui est votre invité?
Bonjour cher Frédéric. 2 invités pour ce grand rendez-vous présidentiel, Robert Ménard et Bruno Retailleau. Et je serai entourée pour les interroger de Nicolas Barré et Mathieu Bock-Côté.
Europe 1.